Beaucoup, beaucoup savent qu'il revient bientôt, très bientôt. Mais uniquement ceux qui seront prêts partiront avec lui quand il viendra. Et c'est pourquoi la prédication, elle, là où l'épouse est véritablement préparée, la prédication est accordée et donnée de manière à ce que la préparation puisse réellement avoir lieu. Nous avons maintenant devant nous le dernier service de ce week-end et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour chaque parole. Et depuis que la parole nous a été donnée par révélation, elle vit et elle a produit la vie en nous. Elle brille. Elle a projeté la lumière sur notre chemin. Et nous sommes simplement reconnaissants au Seigneur de ce que sa parole soit également si riche, si variée et si multiple. Et nous croyons que le Seigneur poursuivra son chemin avec chacun de nous jusqu'au bout. Je voudrais peut-être appeler tout à l'heure deux ou trois frères qui nous adresseront brièvement leurs salutations et à tous ceux qui repartiront ensuite dans leur pays d'origine, nous transmettons nos salutations. Mais lisons avant cela encore quelques passages de l'Écriture. Même en ce qui concerne le baptême, j'ai appris qu'il subsiste encore une certaine confusion, et ce n'est pas bien. Avant d'en parler brièvement, je voudrais lire dans 1 Pierre au chapitre 2, à partir du verset 22. En pensant particulier à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui désirent expérimenter Dieu. Nous ne sommes pas seulement ici pour lire ce qui s'est passé autrefois avec un homme qui mendiait l'aumône et auquel les hommes de Dieu ont pu transmettre ce qu'ils avaient reçu du Seigneur. Nous sommes ici pour transmettre à notre tour. Nous sommes ici pour dire que Jésus est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Et nous sommes ici pour prêcher le même évangile, afin qu'il soit cru et expérimenté de la même manière. La parole de Dieu peut être expérimentée, et nous devons simplement l'accepter maintenant par la foi. 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 22. Lui, qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Verset 23. Lui qui injurait, ne rendait point d'injure. Maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Et maintenant vient le verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. C'est ainsi que c'est écrit dans la parole de Dieu, et c'est ainsi que c'est vrai. Il a porté nos péchés en son corps sur la croix. Il a été blessé à cause de nos péchés, frappé et maltraité dans son corps. jusqu'à ce que son aspect n'eût plus rien d'humain, ni son apparence, rien de celle des fils de l'homme. Ésaïe 53. Et on peut lire aussi les derniers versets du chapitre 52 d'Ésaïe. Notre Seigneur a porté en son corps les marques des maladies de toute l'humanité. Il n'a pas porté la maladie seulement en théorie. En son corps, il a porté tout ce qui devait venir comme maladie sur l'humanité. Il a porté en son corps, sur le bois du calvaire, les conséquences des péchés et les conséquences de la maladie. Et c'est en cela que consiste notre salut et notre guérison. Il a porté afin que nous n'ayons plus à porter, mais que nous puissions entendre annoncer fidèlement par la prédication que par ces meurtrissus, nous sommes guéris. Car il a été blessé pour nos transgressions, frappé et meurtri pour nos maladies. Et par ces meurtrissures, nous sommes ou nous avons été guéris. Un homme qui aujourd'hui ici désire recevoir la guérison doit croire qu'il a déjà été guéri lorsque Dieu en Christ a accompli la rédemption à la croix de Golgotha. Ça peut s'accomplir. Et cette pensée est également exprimée ici. Il a porté en son corps nos péchés sur le bois, afin que, mort au péché, ça c'est le verset 24, 1 Pierre chapitre 2. Si je portais quelque chose maintenant et que je le déposais et que je te le remettais, alors je ne l'ai plus. Alors quelqu'un d'autre le porte. Ce qui nous accablait et nous frappait a été placé sur lui, afin que nous ayons la paix. Et c'est pourquoi nous sommes guéris par ces meurtrissures. Ce qui me touche encore, c'est le fait que le Seigneur a ajouté à l'Église et non les hommes. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, ici nous lisons les derniers versets, la dernière partie du verset 47. Actes des Apôtres, chapitre 2. La dernière partie du dernier verset, le verset 47. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Pas un homme, pas un prédicateur. C'est le Seigneur, le Sauveur lui-même qui ajoutait, à savoir ceux qui devaient être sauvés. Et c'est ainsi que cela se passe jusqu'aujourd'hui. En rapport avec le baptême, je voudrais simplement lire le passage et demander qu'il soit également cru ainsi. Dans Marc, au chapitre 16, il est toujours écrit au verset 16, Marc, chapitre 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Dans cette traduction, il est dit, celui qui est devenu croyant et qui s'est laissé baptiser sera sauvé. Mais celui qui sera resté incroyant sera condamné. Ainsi, un homme qui se convertit réellement et que le Seigneur ajoute à l'Église, cette personne se fait baptiser. C'est indispensable, ça doit simplement être ainsi comme cela est écrit ici. Au verset 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et ensuite vient le verset 16, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Et l'autre traduction qui dit, mais celui qui sera resté incroyant sera condamné. Je voudrais également lire dans 1 Pierre, car ce passage est souvent sorti de son contexte. Il n'est pas utilisé en relation avec tous les autres passages qui traitent ce sujet. 1 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 19. 1 Pierre 3, verset 19. Dans l'esprit, il est aussi allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été désobéissants, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Avons-nous bien écouté jusqu'ici? Ici, il est fait spécialement référence au jour de Noé et au fait que le Seigneur, lorsqu'il fut crucifié et que son corps eut été déposé dans le tombeau, il est descendu en esprit et il a prêché aux esprits qui étaient en prison. La période de Noé est particulièrement mise en évidence. Pourquoi? Pourquoi précisément le temps de Noé? Comme il était au temps de Noé, cela devait être à nouveau ainsi. Et comment est-ce que c'était au jour de Noé? Genèse chapitre 6. Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Et il dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Genèse 3, verset 6. C'était la lignée de Seth, les fils de Dieu, qui avaient l'esprit de Dieu, mais qui ne crurent pas au message prophétique. Ils ne se laissèrent pas reprendre par l'esprit de Dieu. Au contraire, ils suivirent leur chemin avec la grande masse. Nous ne voulons pas entrer en profondeur sur ce sujet, mais puisque cela est ainsi mis en évidence par la parole de Dieu, nous voulons également le souligner. Je vais relire le verset 20 de 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, verset 20. Qui autrefois avait été désobéissant lorsque la patience de Dieu se prolongeait? Au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Verset 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais un engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Verset 22. Qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Noé Et les hommes, avec lui, n'ont pas été jetés dans le déluge. Elles sont entrées dans l'arche. Et l'arche a été portée par l'eau. Nous sommes en Christ. Et nous sommes ensevelis avec Christ dans sa mort. L'eau n'est pas l'arche. L'arche n'est pas l'eau. L'avons-nous compris? Lorsqu'on considère la parole de Dieu, il faut toujours voir et prendre l'ensemble afin de pouvoir faire application correctement. Il y a encore dans Colossiens 2 un passage qui n'est pas aussi souvent lu, mais qui peut être lu en relation avec le baptême et l'œuvre de rédemption. Parfois, on parle du baptême, puis de nouveau de la rédemption et des choses qui s'y rapportent. Dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 11. Et c'est en lui, Colossiens 2, verset 11, et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, non, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Verset 13. Vous aussi qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Quel merveilleux évangile! Quel message pour toute l'humanité! Il est révélé et trouve son accomplissement uniquement ici et là. Là où les hommes parviennent à la véritable foi et se laissent ajouter à l'Église par le Seigneur. Je crois que concernant le baptême, cela devrait être clair. Ceux qui sont devenus croyants doivent simplement se faire baptiser dans l'obéissance à la parole de Dieu. Car précisément au sujet du baptême, notre Seigneur a dit à Jean le Baptiste, lorsque celui-ci se disposait à le baptiser, ou plutôt Jean le Baptiste dit à notre Seigneur, lorsque celui-ci voulait se faire baptiser, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et alors vint cette parole, laisse faire, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et c'est ainsi que cela se fit. Il nous convient d'accomplir toute justice qui nous est demandée. Et le baptême en fait également partie, tel qu'il nous a été ordonné dans les Saintes Écritures. J'espère que ces passages des Écritures et ce qui a été dit brièvement nous aideront également à comprendre réellement ce sujet de manière correcte. Un homme qui est devenu croyant, qui a reçu par l'Esprit la certitude, l'assurance selon la parole de l'Écriture de Romains 8:16, que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Un tel homme conclut alors avec Dieu l'engagement d'une bonne conscience. Et aussi certain que les péchés ont été pardonnés par le sang de l'agneau. Aussi certain, le véritable croyant Précisément parce qu'il a reçu le pardon des péchés, il se fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je pense alors que nous avons suffisamment éclairé ce sujet. Mais cela deviendra clair uniquement pour ceux qui sont capables de mettre de côté les anciennes idées et les anciennes doctrines. Nous avons lu dans Actes des Apôtres 15, hier soir. Je crois que c'est hier soir que ça a été lu. Et ce qui m'a particulièrement frappé dans les deux premiers versets, c'est que les hommes qui étaient devenus croyants avaient provoqué une vive dispute parce que, bien qu'étant devenus croyants, ils avaient transporté les anciennes choses dans les nouvelles et imposé des exigences qui ne devaient plus être imposées. Je vous les lis. Dans Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 1 et 2. Actes 15, verset 1. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Mais ce n'étaient pas des apôtres. Ce n'étaient pas des hommes envoyés de Dieu. Ils ont enseigné, mais pas au nom du Seigneur. Ils ont présenté des choses, mais ils ne les présentaient pas correctement. Il faut veiller à ce que ce qui est présenté soit juste. Et si ce n'est pas juste, qu'est-ce qui se passe? Alors, les disputes viennent. Alors, viennent les confrontations. Et nous souhaitons en ce lieu que soit dit uniquement ce que Dieu a dit et que soit fait ce que les apôtres ont fait. Nous avons déjà suffisamment d'hostilité à cause de la véritable prédication et nous demandons que l'ancien levain soit laissé à la maison. Au verset 2, Actes chapitre 15, il est écrit, Actes 15, verset 2. Une discussion et vive contestation s'étant engagée entre eux et Paul et Barnabas, les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Ça aussi est devenu très grand et important pour moi. Ils n'ont pas été envoyés à Rome ou quelque part ailleurs, mais à Jérusalem. Là où la parole avait pris son commencement. Là où l'Église primitive avait été fondée. Là où des hommes, sous la direction ou la conduite et l'inspiration du Saint-Esprit, avaient fait connaître le nom du Seigneur ou au nom du Seigneur ce qui devait être enseigné et fait. La même chose doit être recommandée à tous les frères. Ne pas penser ou bien entrer dans les pensées des autres, mais faire attention et accorder toute son attention à la parole et aux pratiques telles qu'elles sont sorties de Jérusalem. Et alors tous les problèmes seront résolus, toutes les questions trouveront leur réponse, toutes les disputes prendront fin, et c'est un véritable rayon de soleil qui sera dans la maison de Dieu. Lorsque tous se soumettent à la correction de la parole de Dieu. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce qu'en ce lieu, il n'est pas nécessaire de débattre, mais comme Paul l'a dit quelque part, Je n'ai rien caché de ce qui était utile et je n'ai pas manqué de vous annoncer et de vous enseigner publiquement dans les maisons, selon Actes 20:20. Mais ce que nos frères qui ont parlé et agi sur ordre de Dieu nous ont laissé, nous l'avons reçu ainsi du Seigneur, tel qu'ils l'ont reçu du Seigneur. Et c'est ainsi que nous le transmettons. Et tous ceux qui sont de Dieu écouteront la parole de Dieu. Il n'est pas écrit qu'un apôtre ou un prophète accomplira ce pourquoi il a été envoyé. Non. Il est écrit que ma parole qui sort de ma bouche ne retournera point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, accompli mes desseins, selon Ésaïe 55, verset 11. Nous ne sommes pas ici pour accomplir quelque chose, non. Mais Dieu est présent et veut bénir et laisser sa parole accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Également, en ce point de l'enseignement que nous avons eu ce matin et brièvement cet après-midi. Je suis très reconnaissant. Oui, en fait, je suis heureux de ne pas avoir à monter au ciel pour demander à Dieu comment telle ou telle chose doit être faite. Mais que tout a déjà été répondu dans la parole de Dieu et que nous n'avons qu'à ouvrir la Bible et nous retrouvons toujours la même réponse divine dont nous avons besoin. Il y a un passage que j'aimerais trouver déjà dans l'Ancien Testament où il est dit « Ce n'est pas que quelqu'un doive monter au ciel. » Je crois que ça devrait être dans Deutéronome 30, en contexte avec Israël et la loi, Deutéronome 30, à partir du verset 11. Ce commandement, Deutéronome 30, verset 11, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée, verset 12. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Verset 13, il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Non. Verset 14, c'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Et cela s'applique à l'ensemble de l'Ancien et du Nouveau Testament, à tous les témoignages des Saintes Écritures. Personne n'a besoin de monter au ciel pour savoir ce que Dieu attend de nous. Au contraire, nous apprenons déjà ici ce que Dieu attend de nous, afin de pouvoir être ensuite avec lui dans le ciel. Personne n'a besoin de dire, je traverse la mer pour aller chercher la parole. La parole est dans notre cœur, elle est dans notre bouche. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et nous savons de quoi nous parlons, nous savons ce que nous prêchons. Nous n'avons rien à ajouter au témoignage achevé et glorieux des Écritures. Et nous ne voulons rien ni retranchée. Nous voulons simplement remercier Dieu de ce qu'il a conduit les choses de telle manière que nous ayons sa parole, et pas seulement comme Bible en tant que telle. Toutes les dénominations l'ont. Il existe plus de 300. Tous possèdent les Saintes Écritures sous forme de Bible. De même, beaucoup d'églises et livres et des communautés chrétiennes les possèdent. Mais, comme nous l'avons ensuite souligné, ce qui a été révélé, ce que Dieu a placé sur le chandelier, ce qui est destiné pour ce temps, Dieu nous l'a donné par grâce au travers du ministère de Frère Branham. Cela signifie que ce qui était déjà présent dans la Bible a de nouveau été placé sur le chandelier et est véritablement une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, selon Psaume 119, verset 105. Et pour cela, nous sommes reconnaissants à Dieu de tout cœur. Amen. Nous avons mentionné que nous voulions prier. Et nous prions parce que nous croyons que c'est biblique. Et comme nous l'avons déjà souligné, et comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous sommes ici pour entendre la parole. Nous sommes aussi ici pour avoir une rencontre avec le Seigneur. C'est tout simple. Et je voudrais également demander à chacun de ne pas se crisper, de ne pas faire d'efforts pour essayer de croire, mais simplement laisser agir la parole et l'esprit, s'en réjouir, de faire confiance au Seigneur et de recevoir de lui ce qu'il a préparé pour nous. Comme nous l'avons lu dans la première parole tirée de Pierre, l'épître de Pierre, il a porté notre culpabilité pour nos péchés, il a pardonné, et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Alors, que sa parole soit aujourd'hui confirmée en ceux qui croient et qui sont dans la détresse. Nous ne pouvons pas faire autrement que de proclamer que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'aurais aimé que le Seigneur me dise, lors de l'appel direct concernant le ministère, qu'il me dise quelque chose concernant la prière pour les malades. Qu'ils me disent quelque chose, comme cela a été le cas pour Frère Branham. Dans le cas de Frère Branham, il lui a été dit, le don de la guérison divine te sera donné. Tu prieras pour les rois et les princes. Et rien ne pourra résister à ta prière lorsque tu seras sincère et que tu prieras. Et cela s'est effectivement accompli. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici, mais de toutes les maladies dont les gens ont été guéris au cours du ministère de Frère Branham, guéris par Dieu, la maladie qui a été le plus souvent guérie était le cancer. La maladie qui a été le plus souvent guérie était le cancer. Et parfois à un stade déjà très avancé. Et Dieu est intervenu de manière surnaturelle et a reconstruit les tissus cellulaires et a mis fin à la destruction causée par le démon et a restauré ce qu'un démon avait auparavant détruit. Amen. Et ainsi, nous croyons de tout cœur que le Seigneur est le même, qu'il est présent aujourd'hui et qu'il désire confirmer sa parole comme étant vraie pour ceux qui la croient. Car, qu'y a-t-il de plus agréable pour lui que de confirmer sa propre parole comme étant vraie et la confirmer en toi, la confirmer en nous, afin que la parole devienne en nous et par nous une réalité expérimentée et manifestée. Amen. Je me tourne maintenant particulièrement vers ma gauche, qui est votre droite. Je me tourne vers les bien-aimés de Tchécoslovaquie. Nous sommes heureux que vous ayez tous pu venir, que Dieu vous bénisse de manière particulière. Nous avons un lien très profond les uns avec les autres. Je leur ai déjà tous demandé de se souvenir de nous dans leurs prières et particulièrement de moi dans leurs prières. Que Dieu bénisse également tous les autres, qu'ils soient avec nous. Maintenant, nous nous levons et que tous ceux qui souhaitent venir pour la prière, qu'ils s'avancent. Nous prierons d'une manière générale pour tous ceux qui s'avanceront. Je lis la parole d'Ésaïe 53, simplement afin qu'elle soit fraîche, vivante et présente dans vos cœurs et dans vos pensées. Ésaïe 53, à partir du verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Frère Rose, viens et prie maintenant et nous allons tous croire et recevoir et remercier Dieu pour cela. Frère Rose, prie. Fidèle Seigneur, nous levons les yeux vers toi dans la foi et nous croyons ce qui a été lu. Tu as tout porté pour nous, toute douleur, toute maladie. Tu as tout pris sur toi. Et tu l'as cloué à la croix. Seigneur, toi seul connais le besoin de chacun de nos frères et sœurs qui sont ici. Tu sais dans quelle situation se trouve chacun. Et nous te demandons, en ton nom, si nous n'avons ni or ni argent, et si nous ne pouvons pas aider, mais toi, glorifie ton nom, ô Seigneur, et confirme maintenant ta parole en ces personnes ici présentes, ô Seigneur, ainsi que celles qui ne sont pas ici, mais qui attendent ton secours dans la foi. Seigneur, nous te remettons tout et nous croyons que c'est déjà accompli, que toute incrédulité soit bannie. Seigneur, que ces personnes avancent dans la foi, croyant que tu les as secourus, ô Seigneur. Gloire à ton nom pour cela. Amen. 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 Frère Franck prend la parole. Bien-aimés frères et sœurs, en vertu de l'autorité de la parole de Dieu, le Seigneur vous fait savoir que vous êtes guéris par ses meurtrissures. Il vous fait savoir qu'il a porté vos douleurs sur lui. Croyez-le de tout votre cœur, et cela sera manifesté en votre corps. Commencez à remercier Dieu. Ne doutez pas, mais rendez gloire au Seigneur. Dieu est digne de foi. Sa parole est la vérité. Il a été blessé. Il a été frappé. Il a été meurtri afin que nous soyons guéris. Et aussi certain qu'il a été crucifié, aussi certain nous sommes rachetés et délivrés, sauvés et guéris. Loué et glorifié soit le nom du Seigneur notre Dieu. Allez en paix, ne doutez pas, et tout ira bien pour vous au nom de Jésus. Amen. Amen.